Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prier pour les morts, prier peut-être avec les morts, c'est ce que fait l'Église depuis son commencement. Pourquoi ? Parce que ceux qu'on a perdus sont quelque part. Et d'autre part, nous voulons savoir quel lien nous avons avec eux. Ça sera mes deux points. Le lieu des morts et le lien des morts. Tout d'abord, le lieu des morts. C'est simple, ça s'appelle le purgatoire. Je le dis parce que vous allez peut-être entendre, ou vous avez déjà entendu, que le purgatoire est une invention récente du XIVe siècle, que l'Église a inventé, je ne sais pas quoi, pour faire peur aux gens. Alors il n'en est rien, comme tout mensonge, il y a un début de vérité. C'est au XIIIe siècle, en 1274, au deuxième concile de Lyon, que l'Église définit de manière définitive et certaine l'existence d'un lieu pour les âmes qui ont quitté ce monde et qui ne sont pas encore glorifiées dans le triomphe des élus que nous fêtions hier. Mais l'Église a toujours prié pour ses morts. Il ne faut pas confondre la définition d'un dogme parce qu'il y a une dispute et qu'on veut trancher définitivement quelque chose. Et puis, ce qu'on croit depuis toujours, vous l'avez entendu dans le livre des Maccabées, déjà dans l'Ancien Testament, on priait pour les morts et Judas Maccabée a fait cette offrande en précisant bien que si c'était inutile de prier pour les morts, il n'aurait pas fait cette offrande. Voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous prions pour les morts. Les pères de l'Église se sont beaucoup appuyés sur un autre passage de l'Écriture, qui est la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, où il est écrit que c'est dans le feu que le Seigneur éprouvera les œuvres de tout homme. C'est là cette image du feu, non pas le feu de la condamnation, non pas le feu de l'enfer, mais ce feu purificateur qui brûle toute impureté. Saint Augustin, c'est pas le Moyen-Âge, c'est le IVe siècle, a beaucoup écrit se faisant sur ce verset de l'Écriture, Origène aussi, encore avant lui. Et puis, il y a, on le cite moins souvent, quelque chose de, une citation remarquable en Saint Jean, au chapitre 21 de l'Apocalypse, « Rien d'impur ou rien de souillé ne pourra tenir devant son regard. » C'est évident, si jamais nous faisons un examen de conscience rapide, et bien quand on accompagne, comme c'est un des ministères des prêtres, ceux qui meurent, et que l'on célèbre des funérailles, bien entendu, ce n'est pas au moment des funérailles où on fait l'inventaire du mal, mais on voit bien qu'une vie est pleine de toutes choses, de choses bonnes, de choses moins bonnes, et que l'on n'est pas prêt, rarement, immédiatement, à se tenir en toute pureté face à Dieu. Oui, l'existence du purgatoire est non seulement certaine par la foi, mais elle est surtout une très bonne nouvelle. Elle est une très bonne nouvelle lorsque j'examine mon âme, de savoir qu'il me restera encore à refaire mon âme, à la réparer, à la trouver pure et irréprochable. C.S. Lewis, pourtant s'appuyant d'abord sur quelques considérations protestantes, il est anglican, examine cette doctrine qu'il appelle papiste, parce que c'est le pape qui la détermine, réfléchit et finit par se dire « Eh oui, c'est évident, mon âme réclame le purgatoire. » Bien entendu, et il prend cette image, c'est ainsi que nous nous présenterons à la fin de notre vie, crottés, moches, plein de nos infirmités, de nos difficultés, et que le Seigneur nous ouvrira la porte pour nous accueillir dans le paradis, tout ça l'écrotté que nous serons en nous montrant cette beauté ineffable de la gloire de Dieu. Alors, évidemment, notre âme, c'est ça le jugement, réclamera que l'on puisse se préparer encore, que l'on puisse mettre nos habits de fête, que l'on puisse se départir de ce qui alourdit notre âme. Oui, l'état de perfection suppose une purification. C'est comme une souffrance souvent évoquée par les pères de l'Église. Peut-être pourrions-nous prendre une image plus moderne. C'est comme un rendez-vous manqué. Si vous avez fixé rendez-vous avec la personne que vous aimez le plus en cette vie et que vous vous manquez, vous en ressentirez forcément une grande souffrance de l'avoir raté en espérant que vous puissiez encore la retrouver. Peut-être encore plus actuelle pour des Parisiens, si vous avez raté le train, si vous avez raté l'avion, eh bien vous espérez qu'un prochain train vous emmènera et vous allez en expérimenter une souffrance de n'être pas arrivé à temps et de n'être pas porté immédiatement là où vous désiriez aller. Voici cette souffrance du purgatoire, décrite par de nombreux spirituels et de nombreux mystiques, dont sainte Thérèse d'Avila, qui m'est chère, et aussi des enfants de Fatima, qui nous renseignent sur la nécessité de préparer notre âme, de la refaire, de la reconstituer. Vous savez que nous aurons encore cette possibilité de refaire à neuf, en toute beauté, ce qui est brisé, cassé, comme un pot qu'on a recollé, réagrafé, dont la faïence s'effrite. Eh bien, c'est ce temps de purification qui nous donnera de pouvoir la refaire. Voilà donc pour cette existence du purgatoire, ce lieu des morts. Et si nous avons prié hier avec le triomphe des élus, la gloire du ciel, eh bien, nous prions aujourd'hui pour ceux qui nous ont quittés et que nous confions à la miséricorde de Dieu. Quel est donc notre lien avec les morts ? Il y a un lien qui est imparfait, et parfois même un lien qui est faux, et il y a le lien que nous propose l'Église. D'abord, un lien imparfait, c'est celui de la mémoire. Celui-ci n'est pas pécamineux, évidemment, il est bon de se souvenir des morts, et c'est souvent ce qu'on entend quand on accompagne à l'Église des gens qui se souviennent de leurs morts. Ils disent souvent, voilà, tu vivras dans notre mémoire. Ceci est très bon et très juste. Et bien entendu que les gens que nous aimons, nous n'allons pas les oublier sous prétexte qu'ils sont morts. Mais voilà, on se rend bien compte que ceci est un effort naturel qui correspond à notre nature humaine et que cela fait vivre en moi le souvenir de celui ou de celle que j'aime, mais que cela ne le fait pas vivre vraiment. Il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose pour que je puisse aller jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Il y a un faux chemin dont je ne peux que vous avertir, mais je ne pense pas que vous comptiez l'emprunter, un chemin qui est aussi mu par notre désir de communiquer encore avec celui qui est mort, et c'est bien naturel, mais qui nous entraîne sur une pente dangereuse. Je veux parler de toutes ces pratiques, de faire parler les morts, que ce soit en faisant tourner les tables, en faisant tourner des lettres, en recourant à l'écriture automatique, bref, autant de pratiques dangereuses dont l'Église s'est toujours méfiée grandement, non pas qu'elle ne sache pas qu'il y ait un état spirituel, mais qu'elle nous met en garde que ce n'est pas la voie normale. La voie normale, c'est que nous vivions notre vie avant de passer à l'autre, et que le lien qu'il y a entre ce monde-ci et l'autre n'est que d'ordre spirituel, charitable. Il n'est pas de l'ordre de la possession. Il n'est pas bon que nous entendions la voix de ceux qui sont morts, sauf apparition miraculeuse. Il n'est pas naturel que nous ayons encore une communication surnaturelle qui ne passe pas uniquement par la prière. Oui, méfiez-vous beaucoup de ceux qui vous vendent, évidemment, et plus on est triste, plus on est touché, plus on est blessé et bouleversé, eh bien, plus on est tenté de recourir à cette pseudo-communication où l'Église nous avertit que nous ne savons pas avec qui nous parlons et que les démons peuvent très bien contrevenir la voix et même l'âme de ceux que nous croyons pouvoir rejoindre et qu'en fait, nous ne rejoindrons jamais par ce biais. Vous le savez, le moyen de l'union, c'est la prière. Le moyen de l'union ici-bas, c'est déjà la prière. Voilà pourquoi dans les communautés chrétiennes, il y a un lien de charité spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes tous frères dans le Christ, plongés en lui. Voilà pourquoi nous pouvons encore faire quelque chose pour nos morts. J'ai eu la grâce de vivre longtemps avec mon arrière-grand-mère qui ne manquait pas régulièrement le matin de nous dire « J'ai pensé, j'ai rêvé de telle personne de la famille qui est morte, je vais offrir une messe pour elle. » Oui, offrir un acte bon, offrir évidemment le saint sacrifice, voilà ce qui nous lie au ciel, puisque l'Eucharistie est le ciel descendu sur terre, comme aiment à le dire les orthodoxes. Eh bien, c'est le lieu où nous-mêmes nous pouvons nous élever jusqu'à la marche de cet autel pour toucher dans le Christ ceux avec qui nous avons encore un lien. Oui, si dans l'Église triomphante, les élus jouissent pleinement de Dieu, si nous, nous l'espérons et que nous connaissons quelque chose de sa présence et que nous pouvons, à travers le voile de l'hostie, savoir qu'il y a là le Seigneur présent, eh bien ceux qui sont morts aussi, où qu'ils soient, déjà glorifiés en Dieu ou encore dans l'attente de cette heureuse purification, eh bien ils sont toujours unis au Christ. Et tous ceux qui sont unis au Christ, nous pouvons comme les toucher par la foi qui est la nôtre, en s'approchant d'eux, en communiant, en priant, en offrant la messe pour eux, nous pouvons encore les toucher. Je terminerai par cette magnifique citation de Paul VI. Ce n'est pas une citation, c'est une lettre qu'il fait à son ami Guiton, lors de la mort de son épouse. Lapsus. La mort de son épouse, il lui écrit ceci: « J'imagine votre peine due à l'impossibilité et à la privation de la communication d'avec votre épouse chérie. Je prie pour que vous puissiez goûter plus intensément encore la communion profonde de ceux qui sont unis au Christ, afin que vous puissiez encore échanger spirituellement avec elle. Voilà notre espoir de ceux qui ne sont plus ici, que nous ne pouvons plus toucher, à qui nous ne pouvons plus parler humainement. Nous pouvons encore nous unir, et peut-être encore plus profondément que quand ils étaient ici présents, nous y unir par la prière, afin de, dans le Christ, de n'être plus qu'un. »